allez vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles sont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Salut! Nous revoilà pour la cinquième émission de Dicotylédonde. Pour ce mois de mai, on a eu envie de concocter un épisode mosaïque autour d'une thématique qui nous intrigue, celle des plantes et de leur musique, du son des plantes et des bruits végétaux. Alors, c'est parti pour une émission d'écoute et de musique contemplative, à la rencontre d'artistes sonores qui, comme nous, ont les oreilles qui frétillent quand on parle des plantes, quand les plantes nous parlent ou qu'on les fait chanter. On est allé à un atelier Le son des plantes à la friche animé par l'artiste Wild Anima. On a échangé avec Gabi Moire, qui a fabriqué avec Radio Roquette et les habitants et habitantes de La Ciotat une pièce sonore pour faire parler le végétal de l'espace public. Et on a demandé à Chloé Sanchez, réalisatrice sonore, de nous envoyer une pièce qu'elle a fabriquée en s'inspirant du lichen. Vous pouvez donc ouvrir grand vos oreilles et si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous allonger dans l'herbe, fermez les yeux. Comme d'habitude, mais cette fois plus que les autres, les dicotylédondes ont des choses à vous dire.
On commence avec Stéréotropique ou la vie organique imaginaire des plantes. C'est une bande-son réalisée à partir de sons de végétaux du centre-ville de La Ciotat, enregistré lors d'une balade botanico-exploratoire en septembre 2022 dans le cadre de la création collaborative Stéréotropique.
Au générique, les végétaux si près du cimetière de Sainte-Croix, magnolia de la place Sadi Carnot, tabac bleu et pariétaire du bout de la rue Ledru-Rollin, micocoulier de la place de la Liberté, platane et cyprès du cercle des Boulomanes, mais aussi Mélinda Millon des Payons, Elsa Mingot, Gabi Moire et Olivia Rivet. Thank you.
Thank you.
C'était Stéréotropique, une création collective de la compagnie Conflagration et Radio Roquette, une radio associative créée à La Ciotat par Valérie Doll, Marianne Chrétien et Olivia Rivet en 2021. Et nous, on a demandé à leur complice Gabi Moire de nous raconter un peu comment tout ça s'était fabriqué à plusieurs mains et comment le végétal les inspire.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Donc oui, Stéréotropique, au tout départ, c'est un projet qui est né à La Ciotat avec l'envie de porter un regard différent sur les plantes qui nous entourent tous les jours, notamment en milieu urbain, et auxquelles on ne fait absolument pas attention et qui pourtant, quand on fait un petit peu de ethnobotanique, on le sait, ont une histoire avec nous, quoi, les humains, des usages oubliés ou pas, des places plus ou moins chéries, enfin voilà. Et donc de revisiter tout ça en baladant dans l'espace urbain avec les gens, et puis aussi dans d'autres espaces comme la garrigue du parc national des Calanques, qui est quand même voilà, il y a aussi cette singularité à La Ciotat, où tu as déjà deux flores très spécifiques dans leur espace entre guillemets naturel, la garrigue et le maquis, et puis en même temps, tu as tout l'espace urbain qui est quand même très 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 proche du parc. Donc ça fait un voisinage de plein de plantes différentes sur un même territoire. Et donc, à travers des balades urbaines comme ça, on parlait de toutes ces plantes aux gens, alors aussi bien de la pariétaire sur laquelle le chien fait pipi alors qu'elle a longtemps été utilisée comme... diurétique, c'est marrant, ou voilà, ou manger comme une épinard, ou etc. Que le géranium, que le palmier, que le pauvre olivier planté en pot en déco alors qu'il a été une richesse agricole pendant jusqu'à pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'était un peu ça le thème. Et puis on invitait aussi les gens à s'exprimer eux-mêmes au cours des balades sur quel lien eux ils ont avec tel ou tel végétal. Mmh. Et ça nous amenait à se nourrir de ces récits-là pour créer des images anaglyphiques qui nous amènent à décentrer un peu le regard. C'est-à-dire, l'anaglyphe, c'est la 3D un peu low cost, où t'as un trait noir, un trait bleu qui se décale, et si tu mets des lunettes, un trait bleu qui se décale, et si tu mets des lunettes rouges et bleues, ça fait un effet de 3D. Donc, en gros, on recontextualisait les récits. Par exemple, si moi je racontais que le platane, une des histoires qui fait qu'il est en train d'être menacé en France, en Europe, c'est à cause du chancre du platane qui a été apporté par les caisses du débarquement. Donc on mettait une l'ombre d'un platane avec une double image avec en fond une image du débarquement. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Mm-hmm. Ou une dame qui nous raconte que son grand-père nettoyait les feuilles du magnolia avec de la bière pour les faire bien briller, et ben on mettait en scène le magnolia avec un gant mappa et on expliquait bien sûr en dessous avec un cartel pourquoi on avait ce délire là avec les plantes, d'où ça venait, donc ça a donné lieu à une exposition dans tout le centre-ville de ces images anaglyphiques là à partir des balades qu'on avait fait avec les gens.
D'accord.
Voilà, c'était je crois en... L'expo, si je ne me trompe pas, a eu lieu en octobre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'était le projet de départ.
Ok.
Voilà. Et après, ça a évolué sur un projet pédagogique avec des élèves de CM2 du quartier Égalade, l'école Oasis, et des jeunes collégiens de 6e de l'école Jean Moulin, dans un quartier voisin. Et donc le thème était autour de la liaison de la sixième, du CM2 à la sixième. Et donc nous, on a repris Stéréotropique un peu en utilisant ce prétexte-là au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on a refait le parcours physique qui sépare cette école de ce collège, puisque okay. C'est le chemin qu'allaient faire les CM2 oui. À un moment, quoi. Pour explorer la flore urbaine d'un talus, d'un bassin de rétention, d'une espèce de décharge, de la route. Et puis voilà, et de voir qu'il y avait notamment plein de plantes comestibles, bien que très polluées, plein de, etc. Enfin voilà, c'était un peu ça l'approche. Et ça a aussi donné lieu à des créations d'images anaglyphiques, mais ce coup-ci à partir de la pratique du cyanotype et du dessin d'observation.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et donc, stéréotropique, ça se décline en différents parcours urbains, c'est ça ?
Stéréotropique, maintenant, ça prend... Alors, il y a un lien très fort. Aujourd'hui, ça existe assez fort avec un ancrage territorial qui est la Cité des Arts de la Rue et plus spécifiquement les abords de la Cascade des Égalades.
Ok.
Mais on le décline aussi. Très récemment, je l'ai fait dans le parc naturel... Au cours d'un séjour scolaire à l'auberge de jeunesse de La Fontasse, qui est dans le parc des Calanques, au niveau de Cassis.
Oui.
Je le fais aussi aux abords des collèges quand on me le demande. Donc, on l'a fait aux abords, par exemple, du collège Joséphine Baker, qui est dans le 3e, si je ne dis pas de bêtises, pas très loin de la Belle de Mer, tout ça.
Oui.
Voilà, donc ça peut être aussi bien aux abords des collèges, en milieu urbain, en colline. Voilà. Notre truc, c'est montrer la richesse ethnobotanique des plantes, quel que soit le milieu, quoi.
Ok. Ça marche. Et d'où vient cette idée d'allier du coup l'approche botanique au son ? Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer un peu peut-être ton parcours plus personnel qui t'amène à travailler ça de cette façon-là ?
Moi j'ai été maraîchère et conseillère technique agricole. J'adore les adventices, je m'intéresse beaucoup à ça. Et par rapport à ta question qui est liée au son, c'est lié à l'évolution de mon parcours. Quoi. C'est-à-dire que après avoir cultivé des plantes, j'ai eu la chance, notamment avec Stéréotropique, qui était le premier projet que j'ai fait avec la Conflagration, de reprendre et de proposer une variation de projet artistique avec les plantes. Et ça faisait un moment que j'étais assez intéressée par la bioacoustique en général.
Oui.
Et puis aussi par, toute la micro-chimie, physique-chimie, on va dire, des biochimies des plantes, quoi. Et y compris quelles sont, elles font. Alors de la même façon qu'on peut s'intéresser à quels sont à tel ou tel effet sur les plantes, il y a des choses qui sont même maintenant assez suivies, prouvées scientifiquement, etc., d'un effet de la musique classique, certaines musiques classiques, certaines ondes sur la croissance des plantes. Mmh. Et inversement, moi, je me suis dit, c'est aussi hyper intéressant de se dire quel son peut faire une plante. Et tu vois, par exemple, je fais de la récolte de sève de bouleau. Mmh. C'est très puissant quand ça monte, la sève de bouleau. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, mais quel son ça fait, la sève de bouleau, quand ça monte? Est-ce qu'on peut l'entendre si on met son oreille sur l'écorce de l'arbre? Et j'ai découvert que oui, ça, il y a des gens qui étudient, par exemple, l'aspect sonore de la montée de sève de bouleau, par exemple. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis aussi, on a eu l'occasion avec Olivia, avec pas mal de projets de tri végétal. Et comme moi, mon truc, c'est la transformation du végétal sous toutes les formes. J'étais hyper emballée par ce qu'elle proposait. Elle avait fait un petit livre de Damasio. Mmh. Elle avait créé une grande harpe végétale en bignonne qu'on était allé cueillir ensemble. Voilà, c'était aussi comme ça qu'on s'était ensemble amusé à faire une bande son végétale, quoi, pour Stéréotropique.
Vu que c'est un projet collectif, je sais pas bien qui a. Enfin, je crois que c'est Olivia qui a du coup créé cette bande son à partir.
En fait, on a fait des enregistrements ensemble et elle a fait tout l'habillage sonore, le montage et compagnie.
Ok.
Mais on est allé ensemble. En fait, c'est même, si je me rappelle bien, c'est même, on a repris le parcours de la balade de Stéréotropique et les plantes sur lesquelles je m'arrêtais en particulier. Il y avait un magnolia, il y avait des grands cyprès dans le cimetière Sainte-Croix de La Ciotat. Enfin, tu vois, je me rappelle très bien avec quels arbres on a joué, quelles plantes. Et c'était sur le parcours de Stéréotropique, sur les plantes sur lesquelles on s'arrêtait.
Mmh. Okay.
C'est un peu faire parler les plantes, hein, tu vois, c'est un peu les rendre visibles d'une autre façon, quoi. Mmh. Audibles.
Oui. Oui, mais c'est pas évident parce que notre première approche du végétal, c'est quand même pas le sonore, quoi. Enfin.
Non, mais quand même, parce qu'il y a ce truc qu'on va chercher aussi en étant dehors et en étant au contact des plantes ou d'un environnement plus naturalisé, on va dire. Le son, ça joue énormément, tu vois. Dans l'épuisement quand même psychique moderne et tout, le son, c'est quand même très fort.
Oui.
Et le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, enfin, tu vois, il y a tout un tas de sons qui nous fait du bien qui n'existent pas s'il n'y a pas le végétal, quoi. Et le végétal en fait complètement partie aussi. Enfin, un platane, ça fait pas le même bruit qu'un palmier quand il y a du vent et compagnie, quoi.
Oui, c'est vrai. Au départ, toi, quand tu fais les parcours, c'est avec les habitants de La Ciotat, enfin le premier stéréotropique avec lequel vous avez travaillé, enfin sur lequel vous avez travaillé. Ouais.
Oui, c'était
Ok.
avec les habitants de la Ciotat,
Ouais. Et toi, est-ce que tu continues d'autres projets en lien avec le végétal et le son?
alors, ben, le végétal et le son, non, j'ai des projets de... Olivia a dû te dire qu'on a une web radio qui est en train de se créer dans les quartiers nord qui s'appelle Régalade. Donc, ouais, via Régalade, moi, pour l'instant, je participe, on va dire, sur le plan... administratif, production, tout ça, mais pas, je j'anime pas d'atelier, mais pour l'année prochaine, il y a le projet, j'avais envie de faire des chroniques autour de l'ethnobotanique, mais aussi de l'hypertechnicité agricole, de la zootechnie et compagnie, mais tu vois, de mélanger un petit peu tout ça, le merveilleux et l'horrible, on va dire, et de parler, j'avais envie de parler de bioacoustique un peu dans ces chroniques, ouais. J'avais envie, par exemple, de parler de la montée de chèvre de bouleau ou ce genre de choses.
Ouais. Ok, trop bien. Ah, c'est chouette. Ok, super.
Ce qui m'intéresse aussi, là, enfin, tu vois, un des biais, en tout cas, qui m'intéresse pour l'instant dans la bioacoustique aussi, c'est le rapport à l'eau, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, moi, si je m'intéresse au son dans l'intériorité, on va dire, des plantes, c'est vraiment le parcours de l'eau. Tu vois, c'est ça que c'est le parcours de l'eau, de l'air et
Ouais.
des bulles, quoi.
Oui.
Et c'est un peu, et je rapproche ça beaucoup de l'effet que peut faire l'écoute, tu vois, de l'eau. Pareil, comme je te disais, le bruit du vent dans les feuilles, bah, pour moi, le bruit de l'eau d'une rivière, etc., c'est un peu le même pouvoir, on va dire, apaisant, etc. Voilà, ça donne envie de se pencher sur l'intérieur des plantes pour entendre ce que ça, quel son ça fait, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Et est-ce que tu peux décrire rapidement ce que t'entendais quand t'as approché l'oreille de la montée pour la sève de bouleau?
Eh ben, pour tout te dire, la dernière fois que j'ai tenté, c'était trop tôt. C'est-à-dire
Ah.
que les bouleaux, moi je suis originaire de l'Essonne, du sud Essonne, où il y a notamment massif de la forêt de Fontainebleau, donc il y a pas mal de bouleaux sur certaines dans certains coins.
Ouais.
Et quand j'y suis allée là en février, je voulais faire une récolte de sève et c'était trop tôt. Il manquait 10 jours, quoi. Donc il n'y avait pas la montée encore. Je peux
D'accord.
pas te dire exactement.
Ok. Pas de souci. Ça laisse le suspense pour la suite.
Ouais.
À bientôt. Bonne
À
fin de
bientôt.
journée et merci beaucoup.
Là, je t'en prie. Salut.
Salut.
Un grand merci à Gabi de nous avoir accordé le temps de cette interview par téléphone. On a été un petit peu prise par le temps, mais on se rendra visite bientôt. Et puis quand même, dimanche dernier, à l'improviste, on est allé avec Clémence à la friche, intriguée par un atelier Le son des plantes qui était proposé aux enfants à partir de 6 ans. On a allumé l'enregistreur et on a posé plein de questions à Alex, Wild Anima de son nom d'artiste, sur comment et pourquoi elle en est arrivée là à elle aussi brancher des drôles de machines aux feuilles des arbres.
Et toi, ça fait
longtemps que tu travailles sur le son et les plantes, et comment ça t'est venu ?
Alors moi, ça m'est venu... Alors la nature, oui, ça fait longtemps, ça a toujours fait partie de ma démarche créative. Ça fait même partie de mon nom d'artiste, c'est Wild Anima. J'ai vécu en Angleterre pendant longtemps, donc j'ai une connexion avec la langue anglaise. Wild, en anglais, c'est la nature sauvage, ou alors le sauvage. Et anima, en latin, c'est l'âme. Donc c'est l'âme sauvage. En fait, c'est pas forcément venu d'un concept, mais le plus j'avance dans ma pratique, le plus je me rends compte que ce nom, il a tellement de choses. C'est aussi l'anima de Carl Jung, la part créative féminine. Et donc j'ai toujours eu cette connexion à la nature. Et les plantes, la musique des plantes, j'ai découvert ça en 2021. par une story Instagram qui a un petit peu changé ma vie, je vous avoue. Parce que ça, tout de suite, j'ai vu « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Je suis allée sur leur site, c'était le Master Plants Orchestra, avec qui je suis toujours en contact et on fait des choses ensemble, qui crée des synthétiseurs où on peut utiliser jusqu'à 8 plantes en même temps. Okay. Donc il y a une plante qui fait la basse, une plante qui fait le lead. C'est tout un orchestre de plantes. C'est toujours en construction, ils font des nouveaux prototypes tout le temps. Mais c'est un dispositif qui a été créé dans les années 70 dans la communauté de Damanhur. C'est une communauté dans le nord de l'Italie, d'où vient le Master Plants Orchestra aussi. Et ça a été un énorme coup de cœur, un énorme coup de cœur de waouh, c'était comme un dream come true. Un rêve devenu réalité de pouvoir vraiment co-créer avec la nature comme ça en direct. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on arrive à capter le son des plantes ?
Ouais, bien sûr. Alors c'est un système qui marche un petit peu comme le... En fait ça vient de ça, c'est un petit peu comme le détecteur de mensonges. C'est un policier aux États-Unis dans les années 60 qui a eu l'idée de mettre un détecteur de mensonges sur une plante et il s'est rendu compte qu'il y avait une activité électrique en fait. Donc ensuite à Damanhur, la communauté dont je vous ai parlé, ils ont développé un boîtier qui détecte la bioélectricité. Donc en gros c'est les flux de la plante, on va lui envoyer une petite charge électrique et la plante va répondre et... Si les flux sont hauts, plus hauts ou plus bas, ça va donner des notes différentes.
Ok, mais donc du coup, il y a un élément technique qui permet de transformer l'énergie de la plante en
signal MIDI, ouais. Ça s'appelle. Okay. Ouais, en signal MIDI, donc en note de musique, en fréquence.
Ouais.
Exactement. Donc, c'est les êtres humains qui vont créer le son, mais c'est en quelque sorte... la plante qui va en jouer. Donc c'est, si on met un son de piano, c'est la plante qui va jouer du piano en fait. Et il y a tellement de choses à dire, je sais pas si on peut les dire comme ça en deux secondes, mais en fait plus on va passer du temps avec une plante, plus on va se rendre compte que justement la musique change, qu'elle s'adapte à l'environnement, avec qui la plante passe du temps. Il y a plein de recherches à faire en fait. C'est hyper intéressant.
Dingue, c'est dingue. Ouais. C'est-à-dire que la bioélectricité de la plante évolue en fonction de son environnement et humain et...
Oui, complètement. C'est ça, en fait, je pense qu'on a... Justement, avec cet atelier, il y avait aussi une petite partie que je voulais faire sur l'histoire de la botanique. Justement, on se rend compte que, voilà, dans la préhistoire, la forme de jardinage, c'était sauvage, chasseur-cueilleur. Ensuite, dans l'Antiquité, on s'est rendu compte des plantes qui soignent. Et au Moyen-Âge, justement, il y avait les jardins, les moines, les nonnes, Hildegard van Bingen, qui créaient des jardins botaniques médicinaux. Et ensuite, à la Renaissance, il y a vraiment eu ce mouvement d'un petit peu dominer la nature. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a oublié que la nature, les plantes sont intelligentes. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence naturelle, justement, du coup, avec laquelle on se met plus en connexion, plus en contact. Et que j'essaye d'amener dans mes ateliers. C'était tellement comme une illumination pour moi, ou enfin un grand moment dans ma vie que je savais pas trop comment comment le partager, mais voilà, petit à petit, j'essaye de trouver des choses qui sont accessibles. Et
est-ce que tu as des exemples de plantes, par exemple, que tu aurais enregistrées dans des environnements différents qui, en fait, ont joué, du coup, de la musique différemment? Enfin, je sais pas si ma question est claire, mais...
Complètement. Il y a pas mal de gens. En fait, la personne qui a fait beaucoup, qui fait beaucoup de recherches là-dessus en France, c'est Jean Toby, qui est dans le village de Gaujac. Je crois que c'est un village. Enfin, en tout cas, c'est dans le sud-ouest. Et qui fait des festivals de musique de plantes tous les ans. Et qui même a développé une forme de musicothérapie botanique. Donc en effet, il fait des recherches là-dessus, de voir notamment avec la plante de la fougère, parce que c'est une des plus anciennes plantes. Donc elle a plus de mémoire dans son évolution. Et en effet, grâce à ses recherches, à sa pratique thérapeutique, il se rend compte que la fougère a un effet positif sur l'être humain. Là, je regardais une petite vidéo juste avant que vous arriviez sur un autre chercheur qui est en lien avec Jean Toby, qui s'appelle Renaud Ruhlmann, et qui justement parlait de cet exemple en Suisse avec deux chevaux. Il expliquait que c'était une expérience qui prouvait qu'on avait mis des fougères aux deux chevaux. Il y avait une jument qui était blessée, et après 3 jours, la jument allait beaucoup mieux après avoir écouté la musique de la fougère, après peut-être 3 séances ou quelque chose comme ça.
Okay. Mais du coup, il lui met réellement des écouteurs dans les oreilles, enfin...
Non, on n'a pas forcément besoin d'écouteurs. Okay. Justement, en écoutant, on a une jolie petite abeille. C'est vrai qu'on est à côté d'une ruche, donc...
Oui.
On n'a pas forcément besoin d'écouteurs, et justement en écoutant Renaud Ruhlmann, je me dis en fait c'est même peut-être pas la musique, c'est peut-être même pas la musique, c'est la plante elle-même qui, par son système de champ électromagnétique, qui en fait se connecte à l'être vivant, donc là dans ce cas-là au cheval, et qui entre en résonance. C'est ça, c'est le mot qu'il utilisait, Renaud Ruhlmann. Voilà, c'est plein de recherches à faire, à connecter avec la science pour pas aller trop loin et se perdre dans la poétique, en fait, aussi, de tout ça. Mais je pense que c'est un mélange des deux. Parce que la poétique, finalement, elle est là pour... c'est peut-être ça aussi que la musique des plantes, elle fait. C'est qu'elle ramène un peu ces deux choses-là. C'est très poétique, c'est enchanteur, mais il y a un côté technologique et qui nous permet de nous connecter à la science et d'écouter ce qu'on ne voit pas.
Pour écouter une plante, on a forcément besoin d'une médiation technologique.
Alors là, on va encore plus profond. Ce qui m'a amené à ça, à la musique des plantes, c'est en fait le sens du cœur. Le sixième sens, que moi j'appelle, pas que moi en fait, mais ça vient du chercheur botaniste, herboriste Stephen Bunner, qui m'a vraiment un peu ouvert les yeux sur tout ça avec son livre The Secret Teachings of Plants, et qui parle du sixième sens, donc de notre cœur, et de son système de champ électromagnétique pour vraiment communiquer avec les plantes. Donc pour répondre à ta question, En fait, oui, on pourrait écouter les plantes. Et hier, c'était hyper beau. C'était magnifique. Il y a un petit garçon, il connaissait plein de choses sur les plantes. Je crois qu'il avait 5-6 ans. Et il me disait des choses incroyables. On a écouté un arbre et on est reparti tout de suite vers une autre plante. Et il me dit, quand je fermais mes yeux, j'arrivais à être dans l'arbre et à sentir comme une cellule dedans. Enfin, il me décrivait un truc hyper spécifique. Et on l'a refait après avec une autre plante. Et je fais, tu veux pas réessayer avec cette plante et me dire ce que tu ressens? Et là, il m'a décrit la photosynthèse. Après, je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que c'est que la photosynthèse? Il m'a dit non, pas du tout. Il m'a vraiment décrit, ah oui, là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec l'air et la lumière. Et donc, pour moi, ce petit garçon, il avait arrivé vraiment à écouter la plante, en quelque sorte. Mais bon, du coup, c'est pas de la musique, mais c'est une forme d'écoute, même plus directe, même peut-être.
Comment ils réagissent, les gens, là, quand tu leur fais écouter une plante? Parce que, enfin, c'est vraiment pas le sens premier auquel on fait appel, ouais, en tant qu'humain pour se connecter à l'environnement.
Ouais.
Et, enfin, du coup, quels sont un peu les premiers ressentis?
Alors, ça dépend. En général, c'est très enchanteur. C'est vraiment, les gens sont vraiment étonnés. C'est incroyable. Ils essayent de comprendre comment ça marche. Hier, je pense que ça a eu cet effet-là, mais c'était aussi, c'était pas facile de se concentrer, de vraiment écouter. Donc, il y avait quand même un côté où peut-être c'était tellement décalé que. Parfois, les gens peut-être se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc, il y a peut-être un petit temps de s'ajuster, ouais, voilà, d'adaptation pour comprendre vraiment le ce qui se passe, le processus, quoi. Mais en général, c'est très enchanteur.
Je suis hyper curieuse de voir ces machines.
Ouais.
Enfin, et ou d'écouter un arbre, quoi.
Ouais, ouais, bah on va le
du
faire.
Du coup, t'as une machine qui est connectée à une enceinte.
C'est un petit boîtier. Je l'ai là. Donc c'est un petit boîtier, il y en a plusieurs, mais là j'utilise celui-là parce qu'il est quand même plus efficace. Donc c'est un petit boîtier qui a de la résine autour avec deux capteurs qui vont capter une charge positive, une charge négative, comme sur une batterie, qui est connecté à mon téléphone sur une application par un système Bluetooth. Et en fait, l'application va capter le signal MIDI du boîtier et va lancer des sons. Donc je sais pas si là, les gens vont peut-être arriver bientôt. Tu veux tester?
Ouais.
Par contre, s'ils arrivent, on va l'enlever, sinon ouais, ouais, ça va gâcher le...
Ouais, la surprise.
L'iris.
Alors, il faut le mettre sur deux feuilles différentes.
Ok.
Ouais.
Tu nous fais écouter quoi,
Lina? On va l'allumer aussi.
Ben, le dialogue entre deux feuilles d'iris, peut-être.
Je sais pas si elles vont se parler.
Utiliser celui-là parce qu'il est un petit peu plus efficace là pour un atelier. Celui-là, il faut bien mouiller la plante et la feuille, donc ça fait moins l'effet direct. Mais il est très bien aussi. Je voulais juste vous le montrer. Mm-hmm. Celui-là, il a été créé aux États-Unis. Ça s'appelle le Plant Wave. Et le boîtier de Damanhour, il s'appelle le Bambou. Bambou M.
Là, c'est juste le signal MIDI. C'est un convertisseur, quoi.
Ouais. C'est ça, en fait, dedans, il y a une petite circuit board, comme on dit.
Oui, un circuit imprimé, quoi.
Ouais, c'est ça. Avec un algorithme, c'est un Arduino, avec un code dedans, qui est open source, en fait. N'importe qui peut créer ce petit boîtier, enfin, cette planche.
Thank you.
un immense merci à Wild Anima pour son temps et son accueil. Conclusion, oui, les plantes et le son, ça va bien ensemble et on peut inventer plein de choses autour de la musique que le végétal susurre à nos oreilles.
Le végétal susurre et parfois même il crie. Pour finir, on écoute le cri du lichen, une pièce sonore réalisée par Chloé Sanchez. Quand tout s'écroule, se brise, se casse, qu'il ne reste plus rien, un effroyable cri jaillit. C'est dans ce milieu extrême où la vie est à néant que le lichen commence lentement et étrangement à tracer son sillon. Entre minéral et végétal, il devient mystérieusement autre. On écoute donc cette pièce sur une espèce en transition née d'une commande du Centre d'art contemporain de Rennes, La Criée, là-bas aussi, en partenariat avec Micro-Sillon pour l'exposition Lichens Never Lie, les lichens ne mentent jamais, réalisée par Chloé Sanchez en 2016.
C'était le cri du lichen de Chloé Sanchez. Merci beaucoup pour le partage de cette création. Un immense merci encore à toutes ces personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission en un temps record. Vous l'aurez compris, l'univers sonore des plantes, c'est une thématique qu'on aime bien et vous n'êtes pas à l'abri d'un prochain épisode sur le sujet.
D'ici là, retrouvez bien sûr toutes les infos sur le site internet de Radio Galère, radiogalère.org, à la page de l'émission Dicotylédonde. Et puis, écrivez-nous, c'est toujours la même adresse, dicoty@etique.com, dicoty@etique.com. On se retrouve au mois de juin.
Parle pas, cependant que je chante, si je n'explique pas le sens de mes chansons, si je ne cite pas d'aventures touchantes, et si je me présente sans trop de façon, ce n'est pas, voyez-vous, que j'ai de l'arrogance, et ceux qui le diront, c'est qu'ils n'ont rien compris, mais j'en dis bien assez, dans mes chansons je pense. Ce n'est pas bavarder que je viens faire ici. Si j'ai chanté, c'est pour ne plus me taire. Pour moi, chanter, c'était mieux que parler. Les chansons que je chante ont déjà leur histoire et ne sont pas tombées de la dernière pluie. Je sais le poids des mots et vous pouvez me croire si je dis que je tremble. Je l'ai choisi. À quoi vous servirait qu'entre temps je m'égare à prononcer des phrases au hasard comme ça? N'attendez pas que je raconte des histoires. Sachez que la pudeur, ça existe parfois. Si j'ai chanté, c'est pour ne plus me taire. Pour moi, chanter, c'était mieux que je ne parle pas, à moins d'extrême urgence, et même alors, c'est à regret que je le fais, mais j'écris des chansons où l'on trouve, je pense, ce qu'un autre que moi en phrase vous dirait. Mais pourtant, celle-ci qui me semble assez claire, je ne suis pas vraiment sûr qu'on l'entendra, je sais qu'il y en a, et ça me désespère. Se plaindront encore que je ne parle pas. Si j'ai chanté, c'est pour ne plus me taire. Pour moi, chanter, c'était mieux que parler.
Dicotylédonde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et les références sur radiogalère.org.
Dicotylédonde, c'est tous les quatrièmes mardis du mois de 15h à 16h, en ligne ou sur 88.4.